Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir. Oui, vous m'entendez bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là par ce temps froid. J'espère que vous n'allez pas avoir trop froid. On a mis les chauffages, donc ça fait un peu de bruit, mais normalement avec le micro, ça va passer. Et dans ce contexte, merci beaucoup Norman de venir de Metz, là où il faisait moins froid aujourd'hui. Merci à Franck Cahen donc, de s'être proposé de Raphaël. De Franck. Donc Raphaël Cahen, qui s'est gentiment proposé pour poser quelques questions à Norman. Donc Norman qu'on reçoit pour la publication de Noirceur, qui sort demain, officiellement. Donc on l'a ici en avant-première. Et qui fait suite à un livre qu'il était venu présenter à la librairie il y a maintenant 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. La dignité ou la mort, qui était sorti aux empêcheurs de penser en rond. Et Noirceur est sorti aux éditions Divergence. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Bonne soirée.
Bon, bonjour à tout le monde. Et donc, bienvenue à cette rencontre avec Norman Ajari autour du livre Noirceur. Du coup, pour présenter rapidement Norman, il a fait sa formation à Toulouse, à l'Université du Mirail. Et il s'est retrouvé professeur de philosophie à Philadelphie, à l'université Villanova. Et donc, actuellement, ou en tout cas, il va devenir professeur à l'université d'Édimbourg, professeur de français, comme on dit. Et donc, comme ça a été rappelé par le libraire dont je ne connais pas le nom, il a publié 2 livres. Désolé. Il a publié 2 livres, donc un, La découverte, La dignité ou la mort, et donc Noirceur, qui est, disons, plus proche des recherches qu'il a menées dernièrement, notamment sous le courant afro-pessimiste. Et donc, je pense que la présentation va s'organiser comme telle. Je vais lui poser quelques questions, il va y répondre, et puis ensuite, on donnera la parole à la salle, histoire que vous puissiez poser vos questions. Donc voilà. Comme je le disais, donc Noirceur, il y a disons plusieurs gestes qui sont accomplis dans ce texte. Et l'un des premiers, c'est une présentation globale, systématique, disons, du courant afro-pessimiste et disons des sources théoriques du courant afro-pessimiste, qui est un courant qui est encore assez peu connu en France et qui constitue donc la première tentative en langue française et peut-être même dans toutes les langues de présentation, en tout cas à ma connaissance, de l'afro-pessimisme comme ça en longueur, à partir de ses sources, etc. etc. Et donc la deuxième partie de ce texte critique l'afro-pessimisme sur l'un de ses angles morts, qui est la question de la masculinité noire. Donc voilà, ça constitue les deux premières parties de l'ouvrage, qui sont, disons, les parties les plus académiques de l'ouvrage. Et puis ensuite, il y a une discussion davantage, je dirais, militante. Donc la première question que j'aimerais te poser, Norman, c'est pourquoi cet usage du terme de noirceur? Est-ce que tu pourrais un peu retracer son historicité, essayer un peu d'expliciter son usage? Voilà.
Ouais. Ouais, c'est la question qui vient tout de suite aux lèvres quand on voit ça, semble-t-il. Ce qui, d'une certaine façon, m'étonne un petit peu, mais oui et non. Parce que, évidemment, comme le sous-titre le laisse entendre, j'utilise le terme noirceur pour parler de la condition noire, évidemment. Et il est vrai que, en langue française, dans les recherches menées en France, ce terme noirceur a été savamment esquivé pour désigner cette condition noire. On a eu recours à un certain nombre d'autres termes que j'aurais pu employer. Mais c'est un livre qui parle de courants de pensée africains-américains. Et dans la pensée africaine-américaine contemporaine, spécialement dans les Black Studies, dans le domaine des études noires états-uniennes, un concept qui est en ce moment est le concept de blackness, qui se traduit littéralement par noirceur. Pour autant, même si ça va de soi que si on le traduit littéralement, si vous le mettez dans Google Translate ou dans DeepL, blackness, ça va vous donner noirceur, c'est clair. Mais dans le milieu académique ou dans le milieu militant, disons que ça ne va pas nécessairement de soi de traduire blackness par noirceur. Tout d'abord parce qu'il y a un précédent fameux, un précédent, comment dire, historique, qui est évidemment le précédent de la négritude, où Césaire, Senghor et Dama se sont attachés à revaloriser un autre terme qui est le terme de nègre, en recourant à l'invention de ce néologisme qui est négritude. Prendre le nègre, reprendre ce concept de nègre, s'attacher à insuffler une espèce de nouvelle énergie dans ce concept de nègre, c'est évidemment prendre la notion, ramasser la notion, récupérer la notion qui était la notion la plus injurieuse, la plus insultante, d'une certaine façon, dans le lexique politique français de l'époque. Et c'était reprendre cette notion de nègre pour en faire une espèce d'étendard ou lui redonner une dignité qui lui a, dont le colonialisme et les discours qui en procèdent l'ont privé. Donc il y a ce geste de reprendre le nom nègre, mais ce geste est en même temps un geste d'évitement. C'est pas seulement un geste de retournement du stigma du nègre, c'est aussi un geste d'évitement du nom noir. Parce que, voilà, je pense qu'il y a une espèce d'incarnation qui est présente dans le nom nègre, qui intéressait les poètes et les intellectuels de la négritude, là où le nom noir, fait signe vers l'obscurité, fait signe vers ce qui est sinistre, vers l'abîme, l'absence de réflexion de la lumière, etc. etc. Et le terme noirceur, en français, a fortiori, rassemble vraiment toutes ces significations. Il fait signe essentiellement, exclusivement vers ces significations-là. Alors, on a pu me suggérer, mais pourquoi est-ce que tu parles pas de noirité, de noircité, etc. Donc, on m'invitait à, recourir à des néologismes immondes, quoi, dont je veux absolument pas l'utilité, parce qu'il y en a un qui existe. Quand on m'a posé la question, j'aurais dû en fait retourner la question. J'ai jamais eu la présence d'esprit de le faire, de dire pourquoi tu veux pas que j'utilise ça, pourquoi tu veux que j'utilise un mot dégueulasse comme noircité à la place d'utiliser noirceur qui est dans le dictionnaire depuis un bon moment. Mais je pense que c'est juste une hypothèse, mais je pense que c'est pour éviter cette question de l'obscurité, cette question de l'abîme, qui est précisément une notion qui est au cœur de la pensée afro-pessimiste essentiellement, mais également au cœur de la pensée de Tommy Curry dont je parle, c'est-à-dire une manière, je pense que c'est un moment important des Black Studies actuellement, une manière d'affronter la dévastation de l'existence, de la vie et de la survie noire aujourd'hui, et plutôt que de l'éviter, et plutôt que de tenter d'insister sur... les capacités, l'inventivité, la production, la productivité de la vie noire, parce qu'on commence à connaître ça, mais dans le contexte de Black Lives Matter, etc., ce qui frappe surtout, c'est les constances dans la destruction, la démolition et l'absence de valeur de la vie noire dans la société civile états-unienne. Et donc, ces significations-là que j'ai voulu retranscrire, en traduisant le plus simplement du monde la notion de blackness par noirceur.
D'autant que je pense que l'usage du terme de noirceur n'est pas sans précédent, puisque les traducteurs qui je crois étaient des Suisses, de James H. Cohn, avait utilisé ce terme de noirceur et avait d'ailleurs titré
la
noirceur de Dieu, God of the Oppressed. Donc, ouais. Ok. Et une autre question qui est connectée, mais qui n'est pas forcément, enfin, qui est connectée de manière un peu tordue, disons, ça serait sur une question sur la notion de diaspora, qui à mon avis est une notion que tu n'utilises pas, en tout cas que tu déploies pas conceptuellement dans ton livre. Et peut-être essayer de poser une question sur la concurrence entre les notions d'exil et les notions de diaspora, en fait. Et disons ce que suppose ce couple conceptuel et l'adoption de l'un des termes. Entre, je pense, l'exil qui désigne une condition diachronique et la diaspora qui désigne une condition synchronique. Et c'est manifeste tout autant dans la pensée noire que dans la pensée musulmane ou dans la pensée juive. Et donc, pour le dire simplement, soit on considère sa communauté comme construisant des nouvelles maisons, soit on considère sa communauté comme étant absente de la maison, en gros, pour parler simplement.
Ouais. Il est clair que dans la pensée africaine-américaine, dans la pensée noire américaine au sens le plus large, c'est la notion de diaspora qui est le plus souvent mobilisée pour une raison historique assez unique d'ailleurs, qui est que l'exil, puisque tu mets ces deux notions en opposition, l'exil suppose un point d'origine à peu près attribuable. C'est-à-dire qu'elle suppose un geste de départ qui serait sinon absolument volontaire, du moins qui procède d'une certaine volition ou d'une certaine, comment dire, d'une certaine puissance d'agir, et d'autre part qui maintient une certaine mémoire, non seulement de la vie passée, mais de la trajectoire. Ce sont toutes ces choses-là dont la condition population issue de l'esclavage sont dépourvues. Pour différentes raisons. Pour des raisons empilées qui, si on les déployait, permettraient vraiment de comprendre la spécificité de la question de la noirceur, de l'anti-noirceur et de la négrophobie. D'une part, très tôt, les Africains-Américains, les déportés, les esclaves mis en cale et débarqués sur les côtes antillaises ou nord ou sud-américaines, ont connu une ethnogénèse, pour parler comme Marc Rediker, une ethnogénèse qui a eu lieu dans la cale, c'est-à-dire l'invention d'une sorte de nouveau peuple. D'un nouveau peuple qui était composé des différentes populations, des différentes ethnies, qui se trouvaient dans la cale. Parce que dans un même navire, il pouvait y avoir des Igbo, il pouvait y avoir des Edo, il pouvait y avoir des Yoruba, il pouvait y avoir des personnes de différents groupes ethniques. Puisque voilà, les navires faisaient différents ports et ils remplissaient au fur et à mesure. Et donc, on avait là des populations qui étaient de différents lieux. Ce qui fait que la communauté africaine-américaine qui se créait n'était, si on la prend non pas du point de vue individuel, mais du point de vue collectif, d'emblée une population d'Afrique de l'Ouest arrachée à sa terre et non pas des groupes homogènes qui disent « Voilà, moi je viens de ce village, je viens de cette ethnie, je viens de cette communauté, de cet empire, etc. » Donc déjà, ils étaient privés de ça. Deuxième couche, évidemment, ces frontières ne sont pas restées. Les frontières qui existaient au moment de la première colonisation, au moment du commerce transatlantique, avec les différents moments de colonisation du continent africain qui ont, disons, leur moment de bascule ou le plus fondamental de 1850, je crois, la conférence de Berlin, qui est le partage de l'Afrique noire, redessinage complet des frontières, etc., qui fait que ces Noirs non seulement avaient été arrachés à des terres et mis avec des populations avec lesquelles ils ne pouvaient pas maintenir de lien mémoriel avec un point d'origine fixe. Mais en plus, les territoires dont ils avaient été arrachés virtuellement n'existaient plus comme tels. Donc, la population issue de l'esclavage a cette particularité-là, que c'est une diaspora sans point d'origine véritable. Si on demande à un Africain américain d'où il vient, il pourra dire l'Afrique. Mais qui d'autre peut dire ça? Quelle autre population qui a maintenu, si vous voulez, une existence communautaire dans un autre lieu, dans un autre continent que celui de son origine, pourra dire à peu près d'où il vient? Les Kabyles que je croisais à Philadelphie, ils savaient très bien d'où ils venaient. Ils savaient très bien d'où ils venaient. De même pour les Indiens, de même pour les Chinois, ils savaient très bien de quelle région de la Chine ils venaient quand on leur demandait. Les Africains américains, les descendants d'esclaves, ne peuvent pas dire d'où ils viennent. Ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils viennent d'Afrique. Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que ils sont le produit à travers leur histoire de croisements de personnes qui viennent de différents lieux d'Afrique de l'Ouest et très souvent également de viols commis par des maîtres ou par des blancs du voisinage. Donc c'est une situation de diaspora qui est une situation de diaspora en réalité assez unique. On utilise le concept de diaspora, mais il est vrai qu'en un sens, ce concept lui-même est presque inadéquat, puisque c'est une condition diasporique qui est, à mon avis, assez unique, puisque d'une part, elle est produit de la capture de l'esclavage, elle est produit de ce qu'Achille Bembe appelle le repeuplement du monde, c'est-à-dire les déplacements de millions et de millions de personnes d'un lieu de la Terre à un autre de façon industrielle, qui a complètement changé la géographie de population, puisque tout ça a été adossé à des génocides des populations amérindiennes qui ont eu lieu à travers toutes les Amériques. Donc c'est un phénomène, un mouvement tectonique absolument, absolument gigantesque à l'échelle des populations. Et donc, oui, le concept de diaspora, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment thématisé, je l'emploie par commodité, parce que beaucoup d'auteurs que je discute l'emploient, c'est une notion. Mais c'est vrai que si on y réfléchit vraiment et qu'on essaye de voir son fond, il faudrait presque un nouveau concept, mais bon, voilà, comme j'aime pas les néologismes, je rechigne à fabriquer des nouveaux concepts, comme j'ai plutôt... Comment dire ? Je sais que Deleuze disait que la philosophie, c'est fabriquer les concepts. Moi, je préfère les recycler. j'ai pas cet allant ou cette audace. Mais c'est vrai que peut-être le concept de diaspora, en fait, n'est pas lui-même approprié. Mais je pense que celui de l'exil, en tout cas, l'est encore moins. Ouais, je pense que le concept d'exil l'est encore moins, oui. Est-ce que j'y serais d'accord ?
Franchement, je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas tranché. Parce qu'en fait, je me pose la question du statut de l'Afrique, en réalité. Tu vois. Et les analogies un peu faciles avec Jérusalem ou avec la Mecque pour disons, les Juifs, pour la Houma, etc. Dans quelle mesure il s'agit d'analogies faciles en réalité. Et donc bon, je pense que ce que tu affirmes est important parce que ce sur quoi ton livre quasiment termine, donc avec cette proposition de communisme noir sur lequel tu pourras peut-être un peu revenir, c'est plutôt une insistance sur la destination plutôt que sur la provenance en réalité. Je crois que c'est l'une des idées fortes, disons, à la fin du texte, au moment, disons, sur le versant normatif quoi, du texte. Est-ce que tu pourrais un peu revenir là-dessus ?
Oui, bien sûr. Bon, j'ai essayé, parce que, comment dire, tout ça se passe dans un contexte académique assez particulier, et même un contexte un peu politique, même si bon, c'est pas centralement la politique, mais des discussions, ouais, disons, théorico-militantes autour de l'afro-pessimisme, notamment aux États-Unis, mais encore une fois aussi au-delà, où cet afro-pessimisme est vraiment l'objet d'attaques extrêmement véhémentes de la part de pas mal de chercheurs, d'académiques, qui voient l'émergence de cette théorie d'un assez mauvais œil. Pourquoi ? Bien parce que l'une des thèses principales de l'afro-pessimisme, c'est le fait fondamental, fondateur de la déshumanisation des personnes noires, leur statut, disons, d'autre fondamental de l'humain, le fait que l'humanité ne s'affirme à travers la modernité que par son opposition, sa différence, sa distinction d'avec la noirceur, et qu'à cet égard, les Noirs ont été tenus, considérés, théorisés comme des non-êtres absolus et comme des espèces de réceptacles de la violence et de l'abjection. Et en conséquence, les afro-pessimistes disent, mais en réalité, c'est ça mon point de vue, ma perspective, ils ne sont pas du tout les premiers à le dire, on a toute une histoire de la tradition radicale noire qui dit la même chose, qui dit qu'il n'y a pas de perspective d'émancipation, d'humanisation, de transcendance dans les sociétés blanches et dans l'État occidental. Ça, c'est une illusion. Il n'y a pas de progrès perpétuel des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, vers davantage d'égalité, vers davantage de tolérance, etc. Les afro-pessimistes prennent d'une certaine façon ce vieux diagnostic hein, qui est celui de Marcus Garvey, qui est celui des Black Panthers, qui est celui des nationalistes noirs, qui est celui de W.E.B. Du Bois à la fin de sa vie. Enfin, c'est une vieille histoire. Et en pensant, disons, il lui donne une texture un petit peu plus ontologique et un petit peu plus, je dirais, psychanalytique. Ils essayent de trouver les raisons de cela. Et donc, beaucoup de gens, ça leur déplaît, ça. Ça leur déplaît pour différentes raisons. Ça leur déplaît parce que ça sabote la question des alliances entre les différents groupes racialisés ou racisés, etc. Voilà, les Noirs se mettent en exception, c'est pas bien. Voilà, beaucoup de gens n'aiment pas ça. La question encore, c'est mais est-ce que c'est empiriquement faux est-ce que c'est empiriquement faux que les Noirs sont la valeur refuge de la xénophobie et le crash test de l'histoire? Bon, je crois malheureusement que c'est assez vrai. N'est-il pas vrai que n'importe quelle population peut faire valoir sa valeur intrinsèque par contraste avec les Noirs qui sont méprisés, détestés dans n'importe quelle partie du monde, des parties du monde qui n'ont absolument pas connu l'esclavage négrier, qui n'ont aucune raison. Ouais, j'étais dans des régions de l'ex-URSS. Heureusement que je suis balèze, mais je vais me faire casser la gueule sans aucune raison par des gens qui n'avaient absolument aucune raison de détester les nègres, mais ils les haïssaient sans absolument aucune raison. De tels phénomènes, se dire, ce sont un peu des anecdotes, mais ça vous donne à réfléchir, et il y en a plein. Et on était dans un contexte où je peux le dire maintenant, ça fait longtemps, j'étais dans un pays qui s'appelle la Géorgie, il y avait des assassinats. Vous savez que les Africains, quand ils ont un peu d'argent, ils essaient d'envoyer leurs enfants pour faire des études, ils les envoient de plus en plus dans des endroits du monde qui ne sont pas trop chers. Donc ils envoient faire des études de médecine dans certaines villes de la Géorgie, à Tbilissi, dans d'autres villes, à Koutaïssi. Les mecs se faisaient buter sans raison. Cette histoire du lynchage n'est pas une histoire, comment dire, une histoire évidemment particulièrement intense dans l'histoire états-unienne, mais elle a essaimé de manière très préoccupante à travers le monde. Et je veux dire, les conceptions du monde, les visions du monde négrophobe sont extrêmement répandues. Je pense que voilà, ça c'est un constat important. Et ce que je rappelle, pas énormément dans le livre, mais bon, je pense que ça doit être fait, c'est que cette dimension pessimiste n'est pas quelque chose de nouveau que les afro-pessimistes inventent ou fabriquent. C'est l'objet d'une longue histoire de la pensée politique africaine-américaine et antillaise. C'est une constante. C'est une constante de dire on n'a pas notre place là, il faut faire autre chose. Donc, c'est pour ça que le nationalisme noir a dit dans le sud des États-Unis, on va créer un État, dans la Black Belt, un État indépendant. C'est pour ça que Martin Delany, Marcus Garvey ont dit on va retourner en Afrique pour construire un panafricanisme là-bas et d'autres projets du même genre. Voilà. Ce que les anciens avaient d'une certaine façon et que nous n'avons plus, c'est cette dimension programmatique, comme tu as dit, Raphaël. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas envie de faire un discours comme les critiques de l'afro-pessimisme. Oh, on manque d'espoir. L'afro-pessimisme, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espoir. C'est triste, etc. Parlez-moi encore une fois d'amour et d'espoir. Je vais dégueuler dans mon masque. J'en ai assez de ce ramassis de conneries. J'en ai assez de cette espèce de camelot que les universitaires vendent, la camelot de l'espoir noir, le Martin Luther King sans cesse ressuscé. On va réussir tous ensemble, etc. Et pendant ce temps-là, comment dire, le taux de criminalité, le taux d'assassinat à Philly explose dans l'indifférence la plus générale. Il y a une espèce de, comment dire, de delta incroyable entre ce genre de discours et entre la réalité observable et la condition de la masse des populations noires qui sont de plus en plus appauvries, qui sont de plus en plus violentées, qui sont de plus en plus abandonnées à elles-mêmes. Donc, j'avais pas envie de dire on va penser l'avenir à partir d'un espoir, à partir d'une espèce de tarte à la crème utopique, mais plutôt de dire tout simplement que nous sommes dans une situation où ce désespoir ou ce pessimisme à l'égard des sociétés occidentales et un projet politique radical noir sont une seule et même chose. Que l'une implique l'autre, que c'est l'une qui est véritablement la condition nécessaire de l'autre. Et que cette rhétorique de l'espoir, si elle n'est pas justement adossée à ce pessimisme radical à l'égard de la société occidentale, de l'impérialisme, etc., de l'anti-noirceur, de la négrophobie, évidemment centralement, eh bien c'est un discours d'intégration, c'est un discours d'assimilation, c'est un discours de la patience, qui vise à dire supporter ces situations, supporter ces discriminations, ça va venir. C'est une pédagogie de l'acceptation de l'inégalité, au prétexte que, soi-disant, c'est quand même mieux qu'avant. Mais en réalité, ça pousse les Noirs du monde entier, de toute la dite diaspora, à accepter le fait que l'idée même d'égalité, c'est-à-dire l'idée même de pleine humanité, n'est pas véritablement quelque chose à laquelle nous devrions nous attacher. C'est pas grave parce qu'en tout cas ça s'améliore, ça va mieux. Au moins c'est un peu mieux, c'est de mieux en mieux. Est-ce vrai? Pas exactement. Pas exactement. Mais en tout cas, c'est ce type de discours que j'avais envie de contrer, mais sans toutefois m'en tenir à une position qui est celle d'autres auteurs qui ne se disent pas afro-pessimistes, justement, comme Calvin Warren, qui dit ce qu'il nous faut, c'est de l'endurance. Je discutais de ça avec Jared Sexton, justement, quand je l'avais rencontré. Il m'avait dit, mais ça c'est atroce. C'est pas du tout ça qu'on veut faire. On veut pas du tout dire il faut être endurant. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut démolir ce monde. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas être là à attendre et se prendre plein la gueule avec sagesse. Dire, non, il faut tout cramer. C'est très différent. C'est pas exactement la même approche. Et Sexton m'avait convaincu. Enfin, il m'avait convaincu. Il m'a dit oui, c'est ça ce que j'avais l'impression qu'il voulait dire. Et effectivement, c'est ça que les afro-pessimistes veulent dire. Parce qu'on dit ils sont contre-révolutionnaires, etc. Écoutez, comment vous pouvez être révolutionnaire en nous vendant de l'espoir et si vous ne haïssez pas ce monde? Alors pourquoi vous voulez être révolutionnaire si vous n'haïssez rien? Qu'est-ce que vous voulez détruire? Tu vois ce que je veux dire? C'est au début de Ouvrier et Capital, je crois que c'est le titre en français de Mario Tronti. Oui, il y a cette phrase où il dit que de plus en plus du point de vue communiste révolutionnaire, la haine et la connaissance sont liées, quoi. Et c'est celui qui est vraiment, c'est celui qui a compris. Et on sait que Frank Wilderson, le fondateur de l'afropessimisme, était un lecteur assidu de l'opéraïsme italien. Et donc je me demande si ce n'est pas une idée qu'il a reprise.
Ouais, de l'opéraïsme et de la fraction armée rouge aussi, je crois, quand il a fait une résidence en Allemagne et tout. Ouais. Mais j'avoue que aussi, j'ai jamais compris le truc de la tech de Warren, en fait, l'espèce de stoïcisme christianisé, un peu étrange, qui va dans ce sens-là. Ce que tu dis me fait penser que, donc, avant qu'il y ait cet aspect, disons, programmatique de l'ouvrage, il y a une partie où comme diraient les gauchistes qui aiment l'amour, il y a une sorte de bilan critique, si je puis dire, notamment, du coup, si on peut dire ton passage au pire, etc. etc. Et est-ce que tu pourrais un peu revenir là-dessus justement sur cette notion d'amour révolutionnaire que tu récuses, et puis sur l'incommensurabilité que tu affirmes entre la catégorie de l'indigène et la catégorie de l'esclave qui est déployée notamment par les afro-pessimistes.
Bon, c'est un bilan critique de... Comment dire ? Cette partie que j'ai faite essentiellement sur l'antiracisme politique en France en général, et sur le pire en particulier, c'est-à-dire le Parti des indigènes de la République, dont j'ai fait partie pendant quelques années, environ 5 ans. C'est une nécessité, je pense, pour moi, de réfléchir un petit peu à ça, de réfléchir à mon départ. J'ai essayé de le faire de la manière la plus raisonnable possible, la plus rationnelle possible, et surtout à partir d'un postulat qui était de dire... Je vais faire un bilan critique en disant vous êtes dévoyé, c'est terrible, en fait, tout n'était qu'une illusion, le pire c'est nul, etc. Parce qu'ils ont, ils ont fait beaucoup de très bonnes choses. C'était plus un bilan, je dirais, c'est en un sens plus un bilan autocritique. Dans le sens où pourquoi est-ce que je n'ai pas compris plus tôt. Même c'est pas du tout à la première personne, en fait, mais j'essaie de faire vraiment le truc théorique, d'être le plus objectif possible. Mais pourquoi est-ce que ce programme politique est incompatible avec la condition noire ? Est-ce qu'il veut pas du tout dire que le programme politique du pire est fondamentalement mauvais, que c'était nul ou quoi ? Mais pour les noirs ça ne marche pas. Pourquoi pour les noirs ça ne marche pas ? C'est ça ma question. Donc c'est pas contre l'amour révolutionnaire en tant que tel, et si tant est que, parce que c'est un concept que Boutelja emprunte à Sheila Sandoval, qui est une théoricienne latino-américaine. Elle parle essentiellement de la condition des personnes maghrébines en France. Donc ça marche, semble-t-il, pour ces personnes qui sont dans une position liminale par rapport à la question de la blancheur, qui sont dans une position à la fois d'abjection et à la fois d'être dans une situation de possible humanisation. Qui ne sont pas les réceptacles fondamentaux de l'abjection, de la détestation et des fantasmes les plus obscènes dans l'ensemble de l'espace et de l'histoire intellectuelle et libidinale, disons, occidentale. Donc, c'était ça mon objectif, et de réfléchir à cette différence entre cette catégorie d'indigènes qui était, disons, le sujet politique que le pire voulait construire, en disant, voilà, les Noirs, les Arabes, etc., subissent les mêmes oppressions et les mêmes types de violences en France, ce qui est en grande partie exact. Et donc, ça devrait fonder ça devrait servir de base à la construction d'un nouveau sujet politique. Et une grande partie de la stratégie a consisté, enfin, depuis disons, voilà, les premiers grands textes théoriques de Sadri Khiari, comment faire ressurgir des fractures à l'intérieur de cela, notamment, disons, en investissant la question juive, en montrant, voilà, les les résurgences de l'antisémitisme français, etc., afin de pouvoir penser une alliance entre les juifs et les indigènes, etc., entre autres stratégies de ce genre. Je dis, ce que je dis dans le livre, dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a un impensé dans tout cela, qui est la présupposition d'une alliance naturelle et fondamentale entre les Arabes et les Noirs. Une espèce de similarité fondamentale qui, par elle-même, suffirait à fabriquer ce sujet politique. Or, au cours de mon passage au pire, les exemples d'inimitié entre les Noirs et les Arabes, les exemples de questions de la négrophobie arabe, etc., n'ont cessé de ressurgir, de faire retour, etc. Et à chaque fois, évidemment, à l'intérieur du mouvement, les discussions étaient très tendues et étaient extrêmement déplaisantes. Et c'est une question que m'a semblé l'appareillage conceptuel du pire ne permettait pas d'aborder. Je termine ce petit chapitre-là par une longue citation de Sadri Khiari qui analyse Malcolm X dans son dernier ouvrage qui est consacré à Malcolm X, Malcolm X, stratège de la dignité noire, qui est un livre très intéressant, mais dont aujourd'hui, avec le recul, avec plus de lecture, avec plus de connaissances de la tradition radicale noire, je dois dire que je ne partage pas les conclusions. Il dit que, en somme, Malcolm, et spécialement le dernier Malcolm, quand il a fondé l'Organization of African American Unity, l'Organisation de l'Unité africaine-américaine, donc le parti, d'une certaine façon, qu'il a fait tuer, son tout dernier effort intellectuel et politique, qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on le dit parfois, n'est pas une espèce de moment de rédemption universaliste par l'islam, mais au contraire, même si, comment dire, d'une certaine façon, je pense que son affermissement de la spiritualité islamique l'a conduit à un affermissement d'une politique qui était une politique davantage pragmatique et davantage ancrée sur le nationalisme noir en tant que tel, et où la question de l'appartenance ou non des personnes noires à l'islam était mise au second plan. Mais où, le projet de la création d'une puissance noire était devenu central, au point d'ailleurs que c'est vraiment le blueprint pour ce que sera après le mouvement du Black Power qui va s'inspirer de ce dernier Malcolm. Et donc Sadri Khiari dit, le problème de Malcolm, le problème de ce dernier Malcolm, c'est qu'il n'a pas assez vu les contradictions à l'intérieur de la société blanche, qu'il ne comprend pas qu'il est nécessaire de naviguer à l'intérieur de ces contradictions et de ne pas présupposer qu'il n'est pas possible d'avoir les moindres affinités politiques ou d'intérêts avec les Blancs. Je pense qu'on ne peut pas partager cette analyse-là. Je pense que Malcolm était au contraire un très bon étudiant de l'histoire politique africaine-américaine, et il a bien vu, mais comme Du Bois lui-même l'avait vu en 1933, que de telles alliances étaient possibles peut-être pour une courte période, mais qu'en tout cas, nous n'avons pas d'exemple dans lequel elles seraient durables. Et nous n'avons pas d'exemple dans lequel elle serait in fine au bénéfice des populations noires. Ce n'est pas quelque chose qui peut profiter aux Noirs. Ce n'est pas une stratégie qui est possible pour eux, tout simplement, je pense, pour des raisons qui sont liées à la manière dont la noirceur a été historiquement constituée par opposition à d'autres formes de racialisation. Et où, le passage, les lignes de tractation et de les ponts entre la blancheur et la noirceur est plus compliqué et plus difficile que les autres. Et à la fois, c'est une objection qu'on me fait parfois, et c'est normal qu'on me la fasse parce que c'est vrai. C'est à la fois, la noirceur est à la fois en même temps un objet de désir, évidemment. Vous voyez Obama, vous voyez Kamala Harris. Voilà, les gens aiment bien ça. Des noirs de centre gauche comme ça qui sont qui font le buzz. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois dans leur parcours, et je pense que c'est une constante la logique par laquelle on peut acquérir le pouvoir et la puissance en tant que noir dans le monde blanc, c'est toujours fondé sur une destruction incroyable de la vie noire. Vous voyez Kamala Harris, qui était le top cop, comme on la surnommait en Californie, qui a mis en prison des hommes noirs à gogo. On dit, mais c'est une erreur judiciaire, regardez, le tribunal a rendu l'arrêt, il faut le faire sortir. Non, on ne va pas le faire sortir, pourquoi?
C'était la phrase de Spencer. Là.
Vas-y, dis-la.
Qu'en réalité, Kamala Harris pouvait faire plus que Donald Trump en termes de répression des Noirs, finalement.
Exactement.
C'était un suprémaciste blanc qui disait ça. Mais...
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est la même chose que les discours de Barack Obama aux familles. Voilà, la famille noire est dysfonctionnelle, etc. Enfin,
le thème de l'absence de père,
exactement. Voilà, des trucs que Moynihan sortait dans les années 50. Que maintenant, si ce sont des hommes politiques noirs, ça passe tout à fait bien. Et donc, il y a des contradictions à l'intérieur des communautés noires aussi, bien entendu. Mais c'est pour dire que pour accéder aux plus hautes fonctions, il faut faire ce pacte de sang et tuer énormément des leurs pour faire leurs preuves. Ça c'est tout de même quelque chose qui est assez sidérant. C'est tout de même quelque chose qui est assez unique. Combien de sacrifiés pour pouvoir devenir vice-présidente? Combien de sacrifiés pour pouvoir devenir président? Ça, c'est quelque chose de... Il faut être vraiment sûr que cette personne n'est attachée en aucune manière à la condition des personnes noires de la classe ouvrière aux États-Unis. En aucune manière. Il faut bien faire la distinction. C'est un truc sur quoi Tommy Curry insiste. D'ailleurs, ils doivent bien faire leur distinction, la distinction entre ces African Americans de l'élite et le nègre du ghetto. La différence doit être maximum. Et donc, comment dire, l'anti-noirceur joue à plein, y compris, peut-être même notamment, essentiellement, dans la production de ces figures. Donc voilà, à partir du moment où j'ai fait ce bilan-là, voilà, c'était, comment dire, c'est pour m'expliquer à moi-même, d'une certaine façon, pourquoi ce petit séjour au pire n'a pas, comment dire... n'a pas été aussi, la réussite que peut-être il aurait pu l'être. Et pour ne pas dire que c'est à cause de tel ou tel individu dans sa subjectivité, etc., que c'est les affaires d'appareil, etc. Parce qu'évidemment, comme dans n'importe quelle organisation, il y a des affaires d'appareil à gogo, mais au final, on s'en fout. Puisque ces affaires d'appareil ne sont que, je pense, le reflet de la structure raciale en France et dans le monde. Et c'est ça que j'ai essayé de m'expliquer, voilà, avec les outils de la théorie politique.
Ouais, c'est sûr, vous verrez si vous lisez le livre, c'est vraiment une critique dans une perspective théorico-stratégique en réalité. Et peut-être une dernière question sur quelque chose qui est devenu un poncif, disons, dans la pensée académique et militante française contemporaine, qui est la question de l'articulation entre race et classe, etc. Ça blablate beaucoup là-dessus, etc. Je pense au truc de Noiriel, machin, tous ces types-là. Et pour, est-ce que tu peux un peu expliciter la manière dont tu les articules avec cette idée d'une primauté de la race et d'une inscription de la classe au sein même de la noirceur, qui est, à mon avis, une idée... assez iconoclaste dans le champ francophone.
Oui, parce qu'effectivement, pour moi, et bon, ça, c'est pas, comment dire, c'est vrai que cette idée ne plaît pas beaucoup. cette idée ne plaît pas beaucoup parce que on a une espèce de narration qui est que à partir si on a une pensée qui réfléchit à la fois la race et réfléchit la question de la classe, c'est dans les perspectives et les approches des années 60-70, c'est-à-dire que l'objectif principal et immédiat est la surzomption, pour utiliser la mauvaise traduction de Hegel, ou le dépassement, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai des traductions de Bernard Bourgeois qui me viennent? Le dépassement de la condition noire dans la condition du prolétariat global, etc. C'est déjà le move de Sartre dans l'Orphée noir, etc. Et après, bon. Voilà, roule ma poule, c'est ce que tout le monde fait. Et d'une certaine façon, c'était même le projet des penseurs et des hommes politiques noirs du Black Panther Party dans ces années-là, 60-70. Hein. C'est un moment important de la pensée de Huey Newton, même si il y a différents moments dans la pensée de Huey Newton, hein, ça ne s'arrête pas à ça, mais c'est un moment important de sa pensée. Le marxisme, léninisme, maoïsme fait partie de sa trajectoire de façon importante. Et... mais... ce moment-là, ce moment politique-là, est un moment où, à mon avis, ils avaient tout à fait raison de faire ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire, voilà, ils assistent au reste de la révolution culturelle, ils voient ce que le président Mao essayait de faire, il y a ce mouvement, comment dire, communiste organisé à travers le monde. Il aurait été complètement idiot de ne pas se brancher à ça. Mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Continuer à essayer d'arrimer la pensée politique noire aujourd'hui au marxisme, léninisme, maoïste des Black Panthers les rêves de coalition arc-en-ciel, etc., qui sont portés au nu, ça me semble complètement utopique, tout simplement parce que les conditions ne sont pas réunies. La théorie marxiste n'est plus la théorie hégémonique dans les mouvements politiques, même à gauche. Il n'y a pas d'État socialiste auquel on pourrait se brancher. Nous n'avons pas de grands exemples de révolution récents dont nous pourrions nous inspirer, etc. Il faut penser autrement. Et donc, mais cependant, si on regarde les expériences africaines et diasporiques récentes, la question de classe est fondamentale. L'exemple de Obama et Harris dont on vient de parler en est emblématique. Il y a un fractionnement à l'intérieur de la communauté noire fondamentale de la classe et où cette lumpenbourgeoisie, comme le dit un théoricien, je ne retrouve jamais son nom, mais en gros, vous connaissez la différence entre le lumpen, entre le prolétariat et le lumpenprolétariat, le prolétariat qui travaille, qui se fait extraire sa force de travail, et le lumpenprolétariat qui sont en gros... voilà les vagabonds, les inemployables, etc. Eh bien, dans la théorie critique africaine-américaine, par analogie à ça, on parle de la bourgeoisie noire comme une lumpen bourgeoisie, c'est-à-dire une bourgeoisie qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas les moyens, qui ne possède pas véritablement les moyens de production et qui est inféodée à la bourgeoisie blanche. Mais cette lumpen bourgeoisie existe et elle est extrêmement nocive. En Afrique, dans les expériences des socialismes africains des années 50-60, le fait que des grands penseurs panafricains, des grands penseurs socialistes comme Kwame Nkrumah ou comme Julius Nyerere, qui sont possiblement les deux plus grands leaders panafricains des indépendances africaines, le fait qu'ils aient sous-estimé la stratification en classe de leur pays a été un grand problème et a été nuisible à leurs organisations politiques et à leur devenir. Mais tout ça, pour moi, ce qui importe, c'est la stratification en classe à l'intérieur même des communautés noires, mais non pas la classe comme une espèce d'outil pour rassembler des populations qui seraient censées, soi-disant, avoir des intérêts communs. Je ne crois pas qu'il y ait... Il y a une partie d'intérêt commun, bien entendu, entre les prolétaires noirs et les autres, mais aussi beaucoup de points qui ne le sont pas. Aussi beaucoup d'éléments qui ne concernent que la question noire, qui ne concernent que la noirceur, et qui, à mon avis, pourraient plus facilement être résolus dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une souveraineté noire. Et qui donc suppose... une critique implacable des exactions de cette lumpen bourgeoisie, des exactions des potentats africains, etc., etc. Tout ceci doit faire partie du mix. Mais l'idée selon laquelle il y aurait une espèce de clé universelle pour l'amitié entre les peuples et que on est tous unis, tous égaux dans cette espèce de sujet politique qui est le Parti communiste qui ne reconnaît plus de couleurs, etc. Ce projet-là me semble complètement anachronique et me semble complètement dépassé, en tout cas pour les populations noires. Je pense que ce que l'expérience nous montre, c'est au contraire que la souveraineté noire doit être une priorité. Et avec donc cet agenda que j'ai appelé extrêmement sketchy, quoi, c'est vraiment une esquisse, voilà, dans la fin du livre que j'ai appelé le communisme noir, c'est-à-dire communisme en souveraineté, en autonomie, et avec évidemment un agenda panafricain.
Bon ben merci, je pense qu'on va passer aux questions de la salle, s'il y en a.
Merci déjà pour toutes ces informations enrichissantes. Moi j'avais une question assez générale, donc déjà j'ai pas lu l'ancien livre ni celui-ci. En fait, vous attachez à une pensée africaine-américaine, du coup. Mais moi, j'avais une question, en fait, au niveau de la France, comment ça se passe? Est-ce que vous avez fait une critique par rapport à ça qui conceptualiserait cette pensée-là au niveau de la France, comme peut le faire Amandine Gay?
La dernière partie dont il a parlé, où je discute avec le pire, c'est sur la France. Mais c'est vrai que ce livre, il est essentiellement sur la question africaine-américaine. Il y avait aussi pas mal de choses sur la France, notamment dans les deux derniers chapitres de La dignité ou la mort, autour de questions spécifiquement de violences policières. En France, le cas français, comment est-ce que fonctionne l'effacement médiatique des victimes de violences policières, comment est-ce que tout ça participe et s'articule à la négrophobie. C'est des choses que j'ai discutées dans la dignité ou la mort. Et un autre, pour moi, un défi également autour de la question de la France et du contexte français qui m'interpelle et m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est que quand on parle de la pensée africaine-américaine, on a quand même une certaine galerie, une galerie assez vaste et assez longue de penseurs, de militants, etc. En ce qui concerne le cas de la France, elle existe, elle est assez touffue. Évidemment, on a cité les Césaire, les Fanon, etc. Donc il y en a quand même pas mal. Mais plus on s'éloigne dans le temps, et plus ça diminue. Mais on parlait ce matin dans l'autre présentation qu'on avait faite, je parlais par exemple d'une figure comme le baron de Vatey, qui écrit un ouvrage en Haïti en 1814 qui s'appelle Le système colonial dévoilé, donc dans cette nouvelle Haïti indépendante depuis 10 ans, et où qui est un ouvrage assez fascinant, où il y a la première critique systémique du colonialisme il y a plus de 200 ans par un Haïtien. Et ça, ce sont des choses dont on parle extrêmement peu. Donc ce qui m'intéresse, c'est de redécouvrir un petit peu toute cette histoire de la pensée noire radicale en langue française. Et ça, je pense, c'est un travail très important à faire, parce que on peut pas avoir des analyses véritablement, pertinentes de la situation actuelle si on n'a pas une bonne vue sur l'histoire des idées qui ne serait pas juste une espèce d'importation de la théorie critique européenne, mais qu'on ait bien en vue que nous sommes assis sur un certain nombre d'écrits afrodescendants, souvent négligés mais pourtant fort intéressants, que nous pourrions récupérer à notre compte, quoi.
Oui. Je vous remercie encore pour l'intervention. Moi, j'avais une question par rapport au concept, d'intersectionnalité, parce que vous avez répondu sur l'articulation de la race et de la classe plutôt dans le contexte des années 60, et en effet, c'est celui du Parti communiste universaliste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, la manière la plus dominante de théoriser cette articulation, c'est plutôt avec ce concept-là. qui vient du féminisme. Et j'aurais, si vous pouviez préciser ouais, la différence entre voilà, votre conception de l'afro-pessimiste et celle de l'intersectionnalité.
Alors, il y a tout un chapitre qui est consacré, pas exclusivement à cette question, mais qui est une discussion de Tommy Curry dans l'ouvrage, et donc qui est essentiellement consacré à cette question, à ces dissensions, non seulement avec l'afro-pessimisme, mais aussi avec le féminisme noir, et donc avec la théorie de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est une notion dont on a un petit peu perdu les traces dans le contexte français, si j'ose dire. Dont on a un peu perdu les traces dans le sens où c'est devenu une notion académique parmi d'autres qui désigne le fait d'articuler race, classe et genre. En gros, voilà. N'importe qui peut faire ça, et si vous faites ça, vous êtes intersectionnel. C'est-à-dire que le Women KKK, le Ku Klux Klan des femmes, par exemple, il est intersectionnel puisqu'il articule effectivement race, classe et genre, mais bon, selon une logique suprémaciste blanche. Mais en réalité, l'intersectionnalité, c'est juste, à mon sens, une théorie pour faire ça. C'est une théorie qui provient du féminisme noir, qui provient de Crenshaw, dans un article bien particulier consacré à General Motors, etc. Donc ça a une généalogie particulière et une généalogie féministe noire. On a tendance à effacer un petit peu cette généalogie et en faire juste un assez vague concept des sciences sociales, ce qui me semble fortement affadir le concept. Mais puisque ce concept a une généalogie particulière, il fonctionne d'une certaine façon. Et c'est-à-dire qu'il fonctionne d'une manière qui, jusqu'à présent, c'est en tout cas la thèse de Curry, et j'y souscris, d'une manière qui n'a pas permis de penser la question de la masculinité noire. Parce que, malgré les dénégations, malgré les précisions qui sont faites, généralement, l'intersectionnalité fonctionne selon la guise, je dirais, d'un cumulativisme des oppressions. En somme, on présuppose que la condition de la femme noire est la même que celle de l'homme noir, mais en pire. Or, ce n'est pas le cas. Empiriquement, ce n'est pas le cas. Historiquement, ce n'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire que l'une est mieux que l'autre ou quoi, mais que ça fonctionne différemment. Ça fonctionne différemment par rapport au type de violence sexuelle qui s'applique, y compris sexuelle ou sexuée, sexuelle et sexuée, qui s'applique sur les hommes noirs. Je parlais tout à l'heure des lynchages. Ce sont un exemple. C'est un type de violence particulier qui s'est essentiellement exercé sur les hommes noirs. David Marriott, qui a un petit peu lancé toute cette idée dans son livre Un Black Man, commence par une scène abominable dans laquelle il décrit un homme noir qui, par un groupe de lyncheurs, se fait couper le pénis. On le force à sucer son propre pénis et ensuite à dire qu'il aime ça. Et après, évidemment, il va être brûlé vif pour ses derniers instants. C'est un exemple particulièrement brutal, particulièrement violent, particulièrement abominable, mais il est une espèce de reflet d'une condition particulière des hommes noirs qui doit être réfléchie et reconnue comme telle, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment une cible fondamentale de violence, de déshumanisation et de mise à l'écart dans le contexte notamment africain-américain, mais je pense au-delà. Il y a un certain nombre de valeurs négatives qui lui sont attachées, qui sont attachées à la masculinité noire en tant que telle, qui ne sont nullement attachées à la masculinité blanche. Les hommes noirs ne sont pas aucun titre dans la société africaine-américaine des patriarches. Alors, certaines théoriciennes intersectionnelles, certaines théoriciennes féministe noire, notamment par exemple Bell Hooks, qui est également publié par Divergence. Donc comme ça c'est bien, ça fait long. On a le débat à l'intérieur même de la maison d'édition entre les différentes théories. On a une manière assez commode de décrire la manière dont les hommes noirs sont victimes du patriarcat. De manière à mon avis assez commode et assez rouée, si je puis dire. On dit: les hommes noirs n'ont pas accès aux bénéfices du patriarcat dont possèdent les blancs, c'est-à-dire un pouvoir social, c'est-à-dire un accès à certaines femmes, c'est-à-dire des facilités sociales, you name it. Une sorte de pouvoir, évidemment, qui est propre au patriarcat. Alors, n'ayant pas accès à ça, nous dit Bell Hooks, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils sont frustrés. Ils sont en colère parce qu'ils ont envie d'y avoir accès. Et donc, ça les rend violents et ils déclenchent cette violence contre eux, notamment les femmes de leur communauté. Et ça les pousse à des conduites, à des espèces de conduites autodestructrices et des conduites de destruction des autres. Un exemple comment dire, d'application de cette théorie qui est assez, assez mémorable est celui des Central Park Five. Si vous avez vu le film In Their Eyes, de Ava DuVernay, vous connaissez cette histoire. C'était pas un film, c'était une espèce de série Netflix avec peu d'épisodes qui raconte l'histoire de, je crois, 5 ou 6 jeunes afro-américains, des adolescents, très jeunes, autour de la quinzaine. Je pense peut-être même le plus jeune avait 12 ou 13 ans. Enfin, c'est atroce. Qui ont été condamnés pour le viol et le meurtre d'une joggeuse blanche à Central Park. Ils ont été mis en prison, ils ont subi les pires avanies, jusqu'à ce qu'ils soient innocentés plusieurs années plus tard, lorsqu'on a découvert le véritable tueur, quand on a confondu le véritable tueur, qui était simplement une espèce de tueur en série, de tueur et violeur en série, tout ce qu'il y a de plus blanc, mais juste un tueur en série à l'américaine, si vous voulez, un petit peu. Quoi. Et Bell Hooks a écrit un chapitre pour dire « Regardez ces types-là, ces adolescents noirs, ils sont vraiment l'exemple de la toxicité du patriarcat africain-américain, de cette frustration qui génère des passages à l'acte, etc. » Mais évidemment, c'était du bidon, c'était faux. La véritable analyse qu'il aurait fallu faire, c'est que les procureurs blancs à New York chargent des adolescents noirs absolument innocents pour des crimes dont tout indique qu'ils ne seraient absolument pas capables. Mais on a ce mythe de l'impulsivité criminelle de l'homme noir qui fait qu'ils sont assez faciles à mettre en prison. Et ça, c'est quelque chose que très souvent qui échappe à la pensée intersectionnelle. Parce qu'ils disent « Regardez, nous avons une théorie pour montrer les origines de cette attitude violente des hommes noirs, mais ils ne remettent pas en cause l'idée que ces hommes noirs sont intrinsèquement violents. Tout ce qu'il dit, c'est « on va vous donner un récit alternatif de la manière dont les nègres sont devenus des bêtes, dont les hommes noirs sont devenus des animaux sauvages et violents. » Mais ils ne nous disent pas « ils ne le sont pas ». Ils ne contredisent pas le récit de l'État raciste et négrophobe américain. Ils l'enrichissent de certaines nuances en disant « il faut expliquer comment ils y sont arrivés ». Mais ce n'est pas vrai. Ce que dit Tommy Curry, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des bêtes sauvages. Ce n'est pas des types atrocement violents. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait des études sociologiques, on voit que les hommes africains-américains ont beaucoup moins de stéréotypes de genre, par exemple, sur les minorités sexuelles et les minorités de genre que tous les autres hommes des autres groupes raciaux et même que les femmes blanches. On voit que ce sont des personnes qui, en réalité, du fait de leur expérience de l'oppression, ont tendance à avoir davantage d'empathie envers les autres groupes minorisés, et non pas qu'ils cherchent à les dominer pour passer le temps ou pour assouvir leur frustration. Il y a eu, au contraire, chez eux, une pédagogie de cette condition d'oppression qui fait qu'ils sont plus à même de la comprendre chez les autres et de faire preuve de respect et de tolérance. Et j'avoue que, comment dire, c'est de l'anecdote, là, c'est un peu du pifomètre, mais c'est vrai que ce sont quand même des attitudes que j'ai vues pour avoir vécu dans un quartier blanc et dans un quartier 100% noir à Philadelphie. J'ai bien vu la différence et j'ai bien vu que, comment dire, cette histoire africaine-américaine fait que la tolérance et une certaine forme d'ouverture d'esprit est clairement du côté des Africains-Américains, que ce soit les femmes noires ou les hommes noirs aux États-Unis. Et je pense que la théorie de l'intersectionnalité et que sa théorisation des hommes noirs n'est pas satisfaisante. Et c'est pour ça que l'intervention de Tommy Curry est à mon sens si importante et que j'ai tenté d'en décrire quelques lignes de force dans cet ouvrage.
Bonsoir et merci pour toute cette intervention. Juste une petite question, est-ce que vous pourriez élaborer un tout petit peu sur ce que vous appelez le communisme noir, développer un tout petit peu ce que vous entendez par là.
J'avais besoin d'un titre pour la conclusion. J'ai mis ça, je me suis dit ce sera provocateur et et c'est amusant. En réalité, ce qui m'intéresse, même si je pense que je vais garder ce truc communisme noir, parce que ça sonne bien, c'est carré, quoi. c'est carré, c'est aussi un petit peu une référence au socialisme africain. C'est un peu pour mettre en miroir du socialisme africain, parce que dans les années 60, il y a d'ailleurs un bel ouvrage d'Yves Benoît qui s'intitule L'idéologie du socialisme africain, un ouvrage gigantesque, à mon avis absolument épuisé. Plus personne aujourd'hui n'a envie de lire 500 pages avec des caractères minuscules à l'idéologie des différents leaders des révolutions africaines. Mais si vous le trouvez en occasion, ce qui a été mon cas, c'est absolument fascinant. C'était un historien et qui a été un proche de Kwame Nkrumah. Donc, vraiment. Donc, ce concept de socialisme africain était vraiment le concept qui, dans les années 60, décrivait la pensée des penseurs, disons, non alignés en Afrique, mais avec des inspirations socialistes. Donc, au premier rang desquels Kwame Nkrumah, mais aussi d'autres variantes, comme Léopold Senghor, ce qu'il a fait au Sénégal, qui était vraiment beaucoup plus centriste, on va dire. Mais voilà, ça désigne beaucoup de choses différentes. Et donc, je me suis dit, avec cette expérience en tête, qui est évidemment une expérience ratée, hein, comme, qui n'a pas duré, comme toutes les expériences socialistes que nous connaissons, à part la Chine, bon, c'est un autre débat. J'ai voulu donc essayer de reprendre cet héritage-là, le radicaliser dans le même ton que le reste du livre, puisqu'on a des auteurs quand même assez énervés qui sont là-dedans, et immédiatement annoncer la couleur pour dire que oui, l'abolition de la propriété privée. La socialisation des moyens de production, c'est encore à l'ordre du jour. Dans le cas noir, dans le cas africain, c'est une nécessité. Mais en même temps, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et à partir de nouvelles références, en ayant en tête un concept historiographique qui a été élaboré par le politiste africain-américain Cedric Robinson en 84 dans un livre qui s'appelle Black Marxism, donc le marxisme noir, encore un autre truc qui explique le titre, dans lequel il aborde le concept de tradition radicale noire. Et pour lui, la tradition radicale noire, en somme, c'est toute l'histoire des luttes politiques et sociales qui se sont déroulées dans l'horizon, disons, de l'esclavagisme global. Et contre cet esclavagisme global. Et l'une des thèses de Robinson, il y en a beaucoup de thèses, le livre est énorme, hein, c'est un gros livre en anglais, encore une fois. Quand on parle du marxisme, du socialisme noir, vous voyez, c'est direct 500 pages. Il y a beaucoup de choses à dire, et il n'y a pas beaucoup de livres, alors les gens ils veulent y aller à fond, ils veulent dire tout ce qu'ils ont à dire, parce qu'il y a des choses à dire, et peu de gens les disent. Et donc, l'une des caractéristiques fondamentales de cette tradition radicale noire, c'est que elle n'a pas repris du marxisme, ou elle n'est pas dans la même situation que le marxisme, qui considère à la fois sa théorie et sa doctrine comme opposée au système industriel capitaliste et dans sa continuité. Et cette dualité, si vous voulez, c'est ce qui est rendu possible par la philosophie de Hegel. C'est ça, c'est la dialectique hegelienne que Marx reprend. Donc la surzomption dont je parlais, ou le dépassement, c'est-à-dire que le communisme marxiste, et après marxiste-léniniste, c'est pas la simple négation radicale de cette société industrielle, c'en est la négation et en même temps le parachèvement et le couronnement. C'est-à-dire qu'on va en garder les bénéfices, etc. Et Robinson nous dit, le radicalisme noir tel qu'il s'est fondé de la part des Africains-Américains, des Antillais, etc., dans les révoltes d'esclaves, dans les Quilombos, et après, évidemment, dans la révolution haïtienne, etc., n'était pas dans la même situation, n'était pas dans la même position. Il ne disait pas, on va garder cette notion de progrès et on va aller plus loin et on va rendre possible le progrès accessible à tous. C'est-à-dire, on va tout cramer, on va détruire les plantations. Il n'était pas question d'améliorer les plantations. Même si, justement, empiriquement, c'est ce qui s'est passé. C'est une chose que Toussaint Louverture a mis en place. D'une certaine façon, il n'avait pas le choix. Mais bon, ça, c'est l'histoire de la révolution haïtienne, c'est autre chose. Le projet intellectuellement, ce n'est pas ça. Le projet, c'est de dire, il faut abolir tout ça. Il n'y a rien dans le monde des plantations qui nous renvoie à une modernité qui est bénéfique pour les Africains qui y sont exploités. Donc c'est une autre manière de penser le rapport social, et c'est une autre manière de penser la dialectique, parce que j'ai pas envie de jeter la dialectique à la poubelle. Moi j'aime bien ce concept, comme je disais ce matin dans notre truc, j'ai un peu un hégélien honteux, mais la manière dont l'hégélianisme a été utilisé là par le socialisme scientifique me semble antithétique, et en tout cas à Robinson, et je crois que je suis d'accord avec lui, me semble antithétique à cette tradition radicale noire. Et donc le communisme noir, c'est d'une certaine façon retrouver, renouer avec toutes les formes d'anticapitalisme qui se sont fondées dans l'expérience spécifique que les Noirs ont fait de l'impérialisme et du capitalisme. Et de dire qu'il n'est pas sûr que tous les concepts de Marx fonctionnent pour nous. Et en tout cas, le concept de marxisme est rejeté. Il est rejeté dès Huey Newton, hein, même si, comme je le disais, théoriquement, idéologiquement, il était marxiste-léniniste-maoïste. Mais il disait, voilà, Marx, c'est juste un type. L'histoire du matérialisme dialectique est beaucoup plus longue. Elle va bien avant Marx et elle va après Marx. Et pour utiliser une autre boutade, lorsqu'on parle de physique théorique, on ne dit pas que c'est de l'einsteinisme, quoi. On dit que c'est de la physique théorique. Bon. Et disons, la doctrine communiste n'a pas besoin de s'abriter derrière le nom d'un mec. Il y a eu d'autres mecs. Il y a eu d'autres contributrices également. Et c'est un truc que pas mal de gens ont dit, mais qui à mon avis est très vrai. Cette pensée politique ne veut pas juste être un exercice de commentaire des textes de Marx entre tous les autres textes, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas pour les Africains et pour les Noirs, ça peut pas être ça. Il faut penser une approche qui place vraiment les intérêts noirs à sa source. Et je crois que historiquement, le marxisme n'est pas quelque chose qui offre ça. Bon, il y a d'autres approches, évidemment. Ce que je dis, c'est un peu polémique. Il y a un très bon livre de Cadet sur les marxismes haïtiens. Et il a un très bon move là-dedans, qui est assez proche de Robinson, d'ailleurs, où il dit que les marxistes haïtiens, qui étaient évidemment fortement anticolonialistes, fortement imprégnés de la question de la négritude, ont opéré ce qu'il appelle une distillation du marxisme. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'en enlever les impuretés, etc., etc. C'est une approche qui est assez similaire à celle de Robinson. Ils disent, bon, il faut garder le marxisme. Moi, je dis, il faut garder le communisme et le marxisme, on s'en tape. Ce n'est pas un nom propre qui nous serve à grand chose. Voilà, Marx n'est qu'un auteur parmi d'autres dans l'histoire des auteurs qui nous servent. Nous devons avoir une analyse centralement, orientée par les intellectuels qui ont pensé les intérêts des communautés noires en premier lieu et essentiellement. Et après, on peut y ajouter les analyses pertinentes d'autres auteurs, quel que soit leur horizon. Il ne s'agit pas d'être fermé, mais de se dire, bon, la condition noire est une chose spécifique, comment la comprendre et comment voir après comment elle s'enrichit d'autres analyses et d'autres vérités.
Une dernière question. Sinon, merci beaucoup, Raphaël et Norman. Merci à vous d'être venus.
Sur livre ou dormir.